Vous écoutez On lit pour vous.
Saviez-vous que le Tamiya rayé est un architecte souterrain? Un texte d'Alexandre Shields, paru le 27 août 2025 dans Le Devoir. Avec sa bouille sympathique et son omniprésence près des campeurs, le Tamiya rayé est un rongeur fascinant à observer en saison estivale. Mais ce petit animal agile et rapide est aussi, et surtout, un travailleur infatigable qui est capable de se bâtir un réseau souterrain doté de tout le nécessaire pour passer l'hiver à l'abri. Si vous avez déjà pu observer des tamias rayés, vous avez très certainement remarqué leur hyperactivité tout au long de la journée, au cours de laquelle ils multiplient les déplacements à la recherche de nourriture pour leur progéniture. Ils ont une portée de 4 à 6 petits par année, ou pour faire des provisions. Ils sont d'ailleurs particulièrement habiles avec leurs pattes antérieures pour manipuler noix et graines avant de les écosser avec leurs dents affilées. Et il suffit de voir leurs abajoues, poches situées dans chaque joue, bien remplies, pour comprendre leur besoin de stocker de la nourriture en prévision, notamment des mois d'hiver. Il faut dire que, contrairement aux écureuils, les tamias rayés ne sont pas actifs en période hivernale. En fait, ils pratiquent une forme d'hibernation au cours de laquelle ils sortent régulièrement de leur torpeur pour manger. Ces mammifères, qui peuvent vivre environ 3 ans, dépendent donc de leur garde-manger et non de réserves de graisse pour passer au travers de l'hiver. En prévision des longues périodes froides et pauvres en nourriture dans leur environnement, les tamias doivent donc aménager un terrier bien adapté à leurs différents besoins vitaux. Sous la terre, à environ 75 cm de profondeur, le tamia aménage un réseau de galeries et de tunnels où chaque salle possède une fonction. Une grande pour dormir, quelques petites pour entreposer ses réserves pour l'hiver, et, généralement, un petit coin en retrait pour faire ses besoins. L'espace doit être suffisant pour entreposer un volume de 7 litres de graines. Peut-on lire sur une page du site web d'Espace pour la vie consacré aux petits rongeurs? Le lieu où le terrier est aménagé est également important, précise-t-on. L'habitat doit contenir suffisamment de débris, de feuilles et de branches pour bien dissimuler l'entrée du terrier, mais aussi des cachettes et des perchoirs afin de pouvoir s'y réfugier. De plus, la présence de suffisamment d'arbres producteurs de riches noix et graines garantit les réserves lors de la saison froide. C'était « Saviez-vous que le Tamiya rayé est un architecte souterrain? » Un texte d'Alexandre Shields, paru le 27 août 2025 dans Le Devoir.
Kent Monkman, l'histoire est dépeinte par les vainqueurs. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 26 août 2025 dans le magazine Fugue. À compter du 27 septembre 2025 et jusqu'au 8 mars 2026, le Musée des beaux-arts de Montréal accueillera en première canadienne l'exposition « Kent Monkman, l'histoire est dépeinte par les vainqueurs », une retentissante invitation à repenser la narration artistique dominante. Membre de la Nation Cree de Fisher River, Monkman propose une relecture subversive de la peinture d'histoire classique pour déconstruire les récits coloniaux et insuffler une vision radicalement nouvelle du passé et du présent. l'exposition rassemble plus de 40 œuvres majeures, des peintures souvent monumentales, qui revisitent les codes académiques de la peinture d'histoire, un genre hérité du XVIIe siècle, célébrant scènes mythologiques, historiques ou religieuses. Les grandes toiles, aux compositions inspirées des maîtres européens, deviennent des contre-espaces où l'artiste replace les Premières Nations au centre tout en interrogeant l'héritage des récits européens. Au cœur de l'œuvre de Monkman se trouve la figure flamboyante, provocatrice et subversive de Mischief Eagle Testicle, son alter ego Two-Spirit. Ce personnage, tour à tour trickster, drag queen mythologique et voyageur temporel, incarne la fluidité des genres, renverse les polarités imposées par le colonialisme et réaffirme l'existence de réalités queer profondément enracinées dans les traditions autochtones. En proposant une perspective bispirituelle et queer autochtone, Monkman rend visible des identités longtemps réprimées ou effacées et rétablissant le lien à des savoirs précoloniaux fondés sur l'acceptation de la diversité des genres et des sexualités. Kent Monkman use de l'imagerie coloniale pour la subvertir, renversant le regard occidental souvent exempt de son regard critique. Dans ses peintures, il inverse le rapport du regardeur et du regardé, convoquant humour, ironie et esthétisme pour arracher la narration historique à sa complaisance. Monkman en détourne les codes visuels, détournant l'imagerie coloniale pour exposer la résistance, l'identité et les violences préhistoriques invisibilisées. Son travail interroge les récits officiels du Canada, célébrant souvent les mythes fondateurs tout en effaçant la violence et l'impact des politiques coloniales. Monkman y répond avec lucidité. Ses tableaux imposent une mémoire vivante, émancipatrice, qui reconnaît les traumatismes intergénérationnels, les violences policières et l'effacement systémique des cultures autochtones. Curaté par Léouli Echagui, curatrice des pratiques autochtones au MBAM, et John Lukavik du Denver Art Museum, l'exposition promet un dialogue critique, visuel et émotionnel puissant avec les publics montréalais. À tous les visiteurs, l'exposition propose une esthétique splendide et incendiaire. Chaque toile est une histoire à déconstruire, à ressentir, à questionner. Monkman redonne à l'image colonisée ses puissances contestataires. Mais, aux communautés queer, Monkman offre également un miroir puissant où se reflètent la fierté de l'amour, la complexité identitaire, la fluidité des corps et des histoires, dans un monde où ce savoir a souvent été nié. Et pour les personnes autochtones, ses œuvres incarnent une mémoire vivante et une réappropriation esthétique, historique et spirituelle, invitant à repenser l'espace muséal comme lieu de réconciliation et de transformation. Kent Monkman, l'histoire est dépeinte par les vainqueurs, est à plusieurs niveaux plus qu'une exposition. C'est un acte esthétique et politique, un pont entre des réalités invisibles et la mémoire collective. C'est l'art comme geste de résistance, de beauté queer et de décolonisation. Info: Kent Monkman, l'histoire est dépeinte par les vainqueurs, du 27 septembre 2025 et jusqu'au 8 mars 2026 au Musée des beaux-arts de Montréal. Site web mbam.qc.ca. C'était Kent Monkman, l'histoire est dépeinte par les vainqueurs. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 26 août 2025 dans le magazine Fugue.
Pourquoi y a-t-il autant de guêpes cet été? Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 17 septembre 2025 dans Le Devoir. Ce n'est pas seulement un sentiment ou un hasard. Il y a bel et bien eu plus de guêpes qu'à l'habitude au Québec cet été 2025. Comment expliquer cette prolifération de cet insecte pollinisateur? Des exterminateurs spécialisés en la matière décortiquent la situation qui pourrait bien devenir une nouvelle norme en raison des changements climatiques. Pour se pencher sur la situation en été, il faut faire un retour en arrière. Jusqu'en hiver, pendant que les rennes tentent de survivre en hibernant. Dès que le temps froid pointe son nez, les rennes sont en effet fécondées par des mâles, puis se cachent et tentent de survivre à la météo. Un exercice difficile qui voit mourir plusieurs rennes, mais qui peut se simplifier si l'hiver est plus doux ou clément, comme ce fut le cas cette année pour une partie du Québec. Plus le taux de survie des rennes est élevé durant l'hiver, plus il va y avoir de nids en construction le printemps suivant, résume ainsi François Dumoulin, exterminateur chez Ecotech Extermination, basé à Montréal. Comme de fait, les journées sont longues et on est très très occupé, relate M. Dumoulin, joint au bout du fil quelques moments après avoir justement traité un nid de guêpe chez un client. Pour Denis Dion, évaluateur chez Exterminateur de Montréal, la quantité de pluie estivale peut aussi être un facteur déterminant. Quand il pleut, c'est sûr que la guêpe est obligée d'arrêter son activité, donc ça freine leur expansion, détaille-t-il. Les longues périodes sans précipitation sont donc généralement suivies d'une augmentation de nouveaux nids et de nouvelles guêpes. En plus d'une augmentation de la quantité de guêpes, M. Dion dit observer de nouvelles espèces qui ne se trouvaient préalablement pas en sol québécois. Il y a des guêpes qu'on ne voyait pas avant, mais qui sont répertoriées dans les appels de clients depuis les 3 dernières années, dit-il. Une migration que l'exterminateur attribue au changement climatique qui permet à ces espèces de désormais survivre au froid de l'hiver. Si la prolifération des guêpes est liée au réchauffement de la planète, est-ce que ce nombre élevé deviendra la norme? C'est possible, selon Denis Dion, en citant un raccourcissement des cycles entre des années à forte quantité de guêpes. Habituellement, c'était des cycles de 3-4 ans, mais là, il y a eu juste un an qui s'est inséré entre une grosse année et une autre, décortique-t-il en référence aux saisons de 2023 et de 2025. Que faire contre les guêpes? Malheureusement, il y a peu de choses que l'on peut faire pour prévenir, parce que le choix de l'endroit du nid demeure celui de la reine lorsqu'elle veut établir une nouvelle colonie, explique d'emblée François Dumoulin. Il faut donc attendre le printemps, généralement vers le mois de juin, afin d'observer si un nid est en construction et le retirer rapidement. Monsieur Dumoulin note particulièrement le danger que des guêpes installent leur nid sous la structure de bâtiments et soient ainsi plus difficiles à observer. Un nid qui est laissé sans surveillance peut grossir puis éventuellement permettre la création de plus de nids en orbite. Sinon, les fameux faux nids qu'on peut acheter à la quincaillerie du coin, ça peut faire une belle décoration, mais ça ne fonctionne pas. Les guêpes communiquent par l'odeur, poursuit l'exterminateur. Pour Denis Dion, il est important de souligner que même si elles sont potentiellement dangereuses en raison des réactions allergiques provoquées par leurs piqûres, les guêpes sont fortement utiles pour la nature, notamment grâce à la pollinisation qu'elles effectuent. Bien que cette contribution soit inférieure à celle des abeilles, les guêpes agissent aussi comme prédateurs pour plusieurs insectes qui peuvent être considérés comme nuisibles. Il ne faut pas oublier que c'est lorsqu'elles se sentent attaquées qu'elles piquent, ce qui survient souvent lorsque l'on interagit avec eux. Pour éviter d'attirer les guêpes en été, M. Dion recommande surtout de garder son espace propre. Elles vont prendre toutes les opportunités pour manger, que ce soit des fruits ou de la viande. C'était « Pourquoi y a-t-il autant de guêpes cet été ?» un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 17 septembre 2025 dans Le Devoir.
L'Iran possède-t-il 20% des réserves mondiales de lithium? Un texte d'Ophélie Denomé Marchand, paru le 23 juillet 2025 dans le magazine Québec Science. L'Iran affirme posséder d'immenses réserves de lithium. Le géologue Michel Gébrac, G-E-B-R-A-K, nuance ses affirmations. En mars 2025, le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce de l'Iran a annoncé que son territoire contenait 20% du lithium à l'échelle mondiale. Cela constituerait la deuxième plus grande ressource de lithium au monde après celle du Chili. Cette affirmation a alimenté des théories concernant les ambitions de Washington suite à ses attaques sur des bases nucléaires iraniennes. En effet, l'administration Trump ne se cache pas de convoiter les minéraux critiques, notamment au Groenland, au Canada et en Ukraine, alors que les tensions géopolitiques mondiales s'accentuent. Ce n'est pas la première fois que l'Iran se targue de posséder d'immenses réserves de lithium, ce métal essentiel à la production de batteries, des appareils électroniques et des véhicules électriques, autant civils que militaires. Comment vérifier ces assertions? Dans son annonce rapportée par les médias iraniens, le gouvernement dit avoir eu recours à un échantillonnage systématique et des analyses chimiques sur 46 sites faits en partenariat avec la Chine et la Russie. Dans la traduction anglaise de son communiqué, possiblement fautive, l'Iran dit avoir trouvé des « réserves » entre guillemets de lithium par ses analyses, ce qui implique que l'exploitation est possible. Gisement avéré ou potentiel? Selon Michel Gébrac, professeur émérite de géologie à l'Université du Québec à Montréal, il y a une confusion entre deux termes, réserve et ressource. Une réserve est avérée, on parle de gisement exploitable, tandis qu'une ressource est l'objet d'une estimation. La différence entre les deux peut varier énormément, d'un facteur de 10 ou 100, selon la concentration du minerai et le coût de production. Citation, c'est un bluff assez typique qui n'est pas propre à l'Iran. L'industrie des mines exagère toujours, peu importe sa nationalité. L'étude ne prouve pas que le lithium estimé est économiquement exploitable. Les tests effectués n'offrent qu'une estimation préliminaire des ressources potentiellement présentes, avance-t-il, fin de citation. D'ailleurs, poursuit l'expert, citation, le lithium est produit de manière significative par moins de 10 pays, avec environ 4 pays dominants. Le Canada est au 6e rang. L'Iran n'en produit pas, donc il n'est nulle part dans ce classement. Pour sa production de véhicules électriques domestiques, l'Iran importe son lithium de Chine. Fin de citation. L'Australie, le Chili et la Chine occupent le haut du classement. Où trouve-t-on du lithium? Le lithium peut être produit à partir de minerais, en particulier la pegmatite, P-E-G-M-A-T-I-T-E, qui est une roche magmatique. Il peut aussi être extrait de saumures dans des lacs salins. C'est le plus gros de la production mondiale. Enfin, on en trouve également dans l'argile, mais à des concentrations difficilement exploitables avec des procédés qui demanderaient trop d'énergie. Citation, la première production de lithium au Québec depuis 2 ans se fait dans la pegmatite, souligne Michel Gébrac. La source de lithium la plus riche se trouve dans le triangle du lithium en Bolivie, en Argentine et au Chili. Les lacs salins y contiennent un peu plus de la moitié des ressources de lithium connues de la planète. Citation, il y a des pegmatites et des lacs salins en Iran, sauf que les analyses du gouvernement ont trouvé des teneurs de 80 parties par million de lithium. Or, ce qu'on exploite est de 2 à 10 fois plus élevé. L'exploitation économique de ce lithium est donc impossible, affirme Michel Gébrac. L'auteur de l'ouvrage « Des mines et des empires » paru en 2025 rappelle que, citation, « 8,5 millions de tonnes d'argile qui contiennent du lithium avaient été précédemment rapportées par erreur par l'Iran comme étant 8,5 millions de tonnes de lithium pur en 2023. Des techniques se sont développées pour exploiter ces gisements, mais elles n'ont pas encore fait leurs preuves. Pour l'instant, exploiter des gisements avec des taux aussi faibles n'est pas rentable. » Fin de citation. C'était « L'Iran possède-t-il 20% des réserves mondiales de lithium? » Un texte d'Ophélie Denomée Marchand, paru le 23 juillet 2025 dans le magazine Québec Science.
Des raisons d'espérer. Un texte de Nathalie Platte, paru le 20 octobre 2025 dans Le Devoir. Cette question me hante. Elle revient au rythme des années qui s'empilent, repoussant de plus en plus cette échéance que j'avais cru rencontrer plus tôt, beaucoup plus tôt. Et puis, il y a peut-être la lumière d'octobre aussi, les feuilles qui s'apprêtent à lâcher, la petite mélancolie confortable dans laquelle je me prépare à glisser afin que j'arrive juste assez alangui pour Noël. Il y a en moi ce mouvement de retrait du monde qui bat son bruit avec ses hauts cris, ses éruptions d'opinion et ses grandes mobilisations aussi fulgurantes que brèves, qui finissent par m'empêcher de penser. Et c'est souvent en octobre que me vient l'envie de remiser un peu mes écrans pour retourner à l'intérieur, préparer du feu pour retrouver le fil de moi qui demande à se mêler aux autres sur le grand métier à tisser de mon identité. Il s'agira d'abord de m'avouer vaincu. Je n'arriverai plus à me faire une opinion sur rien. Comme si la pensée instantanée prenait sa retraite, je goûte à une autre manière de prendre le monde. Peut-être pour retrouver en moi une trace de cette chose que nous devrions chérir jusqu'à la fin de tout, il me semble, cette petite trace d'espoir ou d'espérance plutôt. Je ne sais jamais vraiment faire la différence entre les deux. J'en parle avec Isabelle Rivet quand on se croise enfin, après s'être lus l'une et l'autre, au Salon du livre de l'Estrie. L'espérance, Isabelle, ce n'est pas ce qui surgit quand il n'y a plus vraiment de raison de croire en une issue positive. Je pense que ça convoque plus une dimension spirituelle et qu'il y a quelque chose d'inébranlable dans l'espérance. Isabelle, co-autrice avec sa mère Francine Turbide du sublime « Nos mères meurent » publié chez Quartz, se promène de bibliothèque en centre culturel de petits et grands villages pour faire écrire les gens sur l'espérance. Elle partage avec moi le beau, le menu miracle qui se joue alors quand des gens de tous âges mettent en mots ce petit collage des choses qui les gardent du côté de la lumière dans ce monde qui vire si rapidement au noir. Cela me donne illico l'envie de jouer à son jeu d'espérance. Après que sa mère a commencé à disparaître, avant de disparaître pour vrai, effacée par une forme de démence, très jeune, trop jeune, elle a coécrit ce livre avec elle, prenant les cahiers écrits sur des années par sa mère et les plaçant en dialogue avec elle. On ne ressort pas vraiment intact de cette lecture tant il y a dans le geste, dans les deux noms sur la couverture, dans le fil tendu entre la mère qui meurt, l'enfant qui naît, quelque chose qui dépose effectivement en nous une forme d'espérance. Dans l'intime de cet amour entre une fille et sa mère, dans la parole donnée même après la mort et dans cette lettre écrite par Francine à l'enfant qui grandissait dans le ventre d'Isabelle, il y a peut-être au fond, c'est vrai, Isabelle, le germe de ce que ça nous prend à tous pour vieillir en espérance. Je croise aussi Mathieu Bellil au salon qui, lui aussi, tiens, cherche quelque chose à répondre à son fils qui lui demande « Papa, est-ce que c'est vrai que le monde va brûler? » Avec son essai « Une brève histoire de l'espoir » publié chez Lux, il nous prend par la main, par petits fragments, et nous convie à un voyage dans la pensée de l'espoir. De l'Antiquité à aujourd'hui, au travers des siècles, des guerres et des désillusions, il nous dit quelque chose de la façon dont se retissent, chaque fois, de nouvelles raisons d'espérer la suite du monde. Dans le cinquième et dernier chapitre, « Après les grandes espérances », au fragment 84, il y a cette toute petite réponse à Jean Kelevitch. « Si la prière est le désespoir de la raison, il faut reconnaître que c'est parfois le peu qu'il nous reste, la prière et la poésie. Qui m'habite ?» depuis sa lecture. Il faut lire cet essai comme on suivrait un petit chemin de pierre blanche vers ce qui peut nous donner le droit d'encore souhaiter aimer les humains, malgré ce qu'ils sont, certes, mais surtout avec ce qu'ils sont, les humains et les arbres. Au fragment 187, « Pourquoi tous ces arbres, le pin nain, le camphrier, le ginkgo biloba, le pin de bristlecone, ont-ils trouvé leur place dans les pages d'un livre consacré à l'espoir? Parce qu'ils nous engagent à vivre et à mourir debout. » Amor fati, redit encore et encore Yves Saint-Arnaud dans « L'art de croire », à la recherche d'une croyance saine que je prends aussi avec moi vers mon novembre et que je tends vers vous aussi, pensant que vous êtes peut-être, vous aussi, en train de vous demander comment vieillir bien devant ce monde qui ne sait plus comment parler sans crier. Dans cet essai qui suit son propre déploiement spirituel, en croisement avec des penseurs tels que le psychiatre et chercheur à la pensée fabuleuse Ian McGilchrist, Saint Arnaud, le grand pédagogue à la pensée schématique mais pleine d'amplitude, arrive à formuler ce qu'il désigne en tant que sept indices de ce que serait une croyance saine. Envisageant la fin de sa vie maintenant, Saint Arnaud écrit « Mon credo de fin de vie peut se compléter ainsi. Je m'incline devant cette nature mystérieuse, avec respect, admiration et amour, m'y abandonnant en toute confiance, satisfait de la vie qu'elle me donne, sans rien demander d'autre. » Et puis, il y a Alizée aussi, que je croise au salon, Alizée Goulet, qui dépose dans mes mains son « Ennuagé » que je lis d'une traite le soir. De sa jeunesse qui me rentre dans le cœur, elle me parle de sa thèse sur la maternité et l'écriture. Je lui donne un exemplaire de ce recueil de récits de naissance que j'avais co-dirigé il y a trop longtemps, si longtemps, comme si les histoires de sa naissance devenaient désuètes, comme si un ventre qui se tord, une femme qui meurt toujours un peu pour pousser de la vie au dehors d'elle, ça devenait vite passé date. Je lui parle de mes déchirures et de mes dentelles, elle me raconte ses nuages et, au travers d'eux, je reçois tout de l'avenir qui perce aussi. Nuages bas, les yeux glissent de surface en surface, puis à travers la fenêtre. Derrière la blancheur, je cherche l'étendue de l'univers. Des gouttes en plongée sur la serviette, sur mon cou, je regroupe mes cheveux en nid pour l'humidité. Dans le salon, j'entame une marche relaxée. Je considère des façons d'appartenir. Comme en collage à ma quête d'espérance, je trouve à sa dernière page ce petit collier de minuscules, porté au cou de ce que je m'imagine comme étant une suite habitable pour elle, qui, après tous ces nuages, dépose. Je m'adresse à qui je deviens, à ce qui pourrait venir d'ici, le lac, la berge, si je t'y invitais au complet, toi, le chien, si ton sourire se mêlait à la brillance des vagues. Et voilà que je me trouve avec quelques bribes d'espérance. C'était « Des raisons d'espérer », un texte de Nathalie Platt, paru le 20 octobre 2025 dans Le Devoir.